Angle mort du 16 décembre, messieurs. Aujourd'hui, je vous parle de Gilbert Rozon. Excusez-moi, le fond est un peu fort. Bon, Gilbert Rozon, j'ai deux affaires à vous dire là-dessus. D'abord, je m'adresse à tous ceux qui crient à l'injustice. Je voudrais juste que vous vous branchiez, là, parce que quand vous regardez sur Netflix un des nombreux documentaires sur la vie de tel ou tel gars ou fille qui a passé 10 ans en prison aux États-Unis pour condamnation injustifiée, etc., là, tout le monde font comme c'est épouvantable, le gars n'était pas coupable. Puis quand tout à coup vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est coupable, là, c'est épouvantable. Moi, je veux juste vous dire une affaire, là. Ni moi, ni toi, ni personne, la vraie histoire, on la connaît pas. Je vais rentrer dans le personnel après parce que Gilbert Rozon, moi, je le connais personnellement. On ne connaît pas la vraie histoire. Puis je veux juste, j'ai un message, c'est que le système de justice parfait, là, ben, je suis désolé, de votre vivant, vous le verrez pas. OK? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il va toujours avoir des coupables condamnés. Il va toujours avoir des innocents trouvés coupables qui vont faire de la prison. Et justement, c'est inévitable. Pensez-vous que c'est brillant, la Cour suprême qui avait accepté le port du kirpan dans un avion? Un couteau. Un vrai couteau. Moi, je ne peux pas amener un rasoir à lame ou un coupe-ongle. Mais un Sikh, si je ne me trompe pas, en tout cas, quelqu'un qui a rapport avec cette religion-là, qui vient d'Inde, là, peut avoir pour des motifs religieux. Alors là, il faut qu'il soit dans une petite boîte, puis la patente. Puis, mais, dans la vraie vie, le gars, il rentre dans un avion, puis il y a un couteau, là. Il va sonner, bip, bip, bip. Puis c'est comme, ah, ben vous, hein, vu que vous croyez en je ne sais quoi. Ça fait que, regardez, pourquoi c'est de même? Parce que le juge n'est pas celui qui décide de la vérité. La justice puis la vérité, là, c'est pas la même affaire. La justice cherche la vérité, mais ne la possède pas. Rappelez-vous ça toute votre vie, là. La justice cherche la vérité, mais ne la possède pas. Le juge, quand il décide de dire coupable ou non coupable, il s'occupe d'abord et avant tout, il s'assure que les règles de preuve ont amené à une condamnation ou à un verdict d'acquittement. C'est ça que ça fait un juge dans la vie. Ça n'a pas une science infuse, une boule de cristal qui fait « Ah, ben finalement, je vous ai écouté, finalement, là, j'ai eu des visions. » Puis moi, j'ai vu Gilbert Rozon, là, dans la chambre, tout à coup, « Ah oui, c'est que là, je la sais, moi, tout à coup, j'étais là. » Ben non, vous n'étiez pas là, tu sais. Ça fait que, est-ce qu'il est coupable? Ça se peut. Moi, être franc avec vous autres, ça regarde à ça, pour être honnête, mais c'est pas ça le critère, c'est juste ça que je vous explique. C'est que ça, on va pas s'étirer 107 ans là-dessus. Je vais juste vous dire que le juge a fait sa job. Sa job, c'est pas de dire il devrait être coupable. Ça marche pas de même. Sa job, c'est vu les règles de preuve. Ah, pourquoi des règles de preuve? Ben, je reviens avec ce que je viens de vous dire. Pour empêcher quelqu'un de passer 10 ans parce qu'il y avait un complot de la police, parce qu'il ne l'aimait pas, etc. Dixit, Making of a Murderer, si vous n'avez pas vu ça sur Netflix, c'est fascinant. Ou est-ce qu'à quelque part, on se rend compte que la police a forgé vraiment des preuves pour arrêter quelqu'un pour des raisons un peu nébuleuses, puis le documentaire semble crédible, puis blablabla, mais je veux dire, là, c'est quoi? C'est-tu les documentaires qui vont avoir raison, en bout de ligne? Ça fait que pour chaque exemple que vous trouvez qui est épouvantable, je vais vous donner un exemple au contraire que d'autres personnes trouvent épouvantable. Ça fait que moralité, le système de justice, il peut s'améliorer. Je suppose qu'en cas d'agression sexuelle, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Je pense. Mais je vous rappelle aussi qu'il y a peut-être juste 5 % des agressions qui sont portées en plainte, mais de ces plaintes-là, 50 % finissent en verdict de culpabilité. Ça fait que 50 % qui rentrent dans la machine sortent coupables. Venez pas me dire que la machine ne marche pas. Le problème, c'est peut-être d'entrer dans la machine. Puis si c'est un vrai problème, bien, qu'il se prend en conséquence. Comprenez-vous? Bon. Alors ça, c'est juste mon amuse-gueule là, sur le sujet de Gilbert Rozon. Gilbert Rozon, c'est lui qui m'a engagé. Moi, j'étais à l'Université Laval, puis je faisais des spectacles d'humour, puis j'étais en train de finir mon barreau. Et pendant mon stage, j'ai écrit à Juste pour rire, à Gilbert direct, que je connaissais pas ni d'Adam ni d'Ève, une lettre. J'ai déjà conté cette histoire-là, puis c'est lui qui m'a engagé, puis c'est lui qui m'a mis au monde dans le showbiz, si tu veux. Et je connaissais sa réputation, absolument rien de sexuel, mais sa réputation de gars sur le party, puis tu sais, bon. Mais c'est tout. Et ça m'amène à mon autre point. Comment ça se fait que moi, j'ai aucune idée de par mon expérience des comportements allégués de Gilbert Rozon par des filles que j'ai pas de raison de douter parce qu'elles sont plusieurs. Fait que c'est comme, tu sais, ça regarde mal de dire « ouais, non, mais c'est n'importe quoi ». Il y a un bout tout ce que tu fais, puis j'ai beau le connaître personnellement, j'ai un devoir d'objectivité. C'est douteux, là, tu sais, c'est comme... On se serait attendu un verdict de culpabilité, si vous voulez. Bon, voilà. Maintenant, moi, j'ai rien à dire personnellement qui a été porté à mon attention ou... Ça fait que moi, ça m'amène deux points. Le premier point, c'est... Ça se peut-tu qu'il y a du monde qui sont pas pareils avec un puis avec l'autre? Je crois que oui. Je vais vous dire qui, d'après moi. Puis ça se peut-tu que nos antennes perçoivent pas des affaires qui, pour d'autres, sont flagrantes? C'est ça, moi, mes deux angles le matin, là. Le matin, il est une heure... Mes deux angles, c'est exactement ces deux-là. C'est-à-dire que moi, je vais vous donner un exemple. Personne ne m'a jamais offert de cocaïne dans la vie. Personne. Puis de la coke, j'en ai jamais vu. Alors, tu sais, j'ai pris des petits joints, j'ai pris des champignons. C'est drôle à la mort. C'est les fois que j'ai ri le plus dans ma vie. C'est les trois fois où j'ai pris des champignons, dans le temps justement du festival. Puis une fois quand j'étais à l'université avec Daniel Bernier. Puis c'est comme, c'est rire de même, c'est épouvantable. Ça dure comme 3 heures, puis après ça, c'est complètement fini. Il n'y a pas de hangover, tu sais. Puis des joints, ben écoute, tu sais, un party, ah, veux-tu une puff? Ouais, OK, bing bang. Ça se compte sur une main. Mais j'ai pas, moi, je suis un gars de breuvage. Je suis pas du tout sur la drogue. Et j'ai remarqué que quand tu prends pas de coke, ben on t'en offre pas. Et on t'en parle pas. Puis à la rigueur, on cache le fait qu'on en a pris ou autre. Il n'y a personne qui prend de la coke puis qui fait comme avec son ami qui n'en prend pas. « Allez, let's go, je vais prendre une petite ligne. » C'est pas de même. Ce qui me fait dire que quand tu n'es pas dans un environnement X, les gens ne t'envoient pas ce signal-là. Fait que si à quelque part, tu n'es pas quelqu'un qu'on pense qui est dans des espèces de travers sexuels ou whatever, mais on ne te l'envoie pas ce signal-là. C'est que tu le perçois pas. Ça, c'est ma première affaire. L'autre affaire, c'est que je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'intégrité, puis pour qui c'est un principe d'envie de toujours être la même personne. Donc, tu le vois avec tes amis, tu le vois avec ta blonde, etc. C'est la même personne. Puis il y a du monde qui sont très différents selon avec qui ils sont, qui ont ultimement même pas le même langage, etc. Ceux qui font partie du deuxième groupe, je vois deux raisons. Un, manque de confiance, c'est-à-dire on veut que tout le monde m'aime. Le principe de Dieu, on appelle le complexe de Dieu, c'est-à-dire on veut que tout le monde m'aime. Michel Grenier, pas le nommé, il m'a déjà dit qu'il était de même. Le gérant Mike Ward, puis la réputation que Michel avait avant, c'était que le dernier qui y parlait, c'est lui qui avait raison. Parce qu'il voulait déplaire à personne. Ça fait qu'il y a un truc qui est rigolo là-dessus. Puis je le vois moins de même depuis longtemps, Michel, mais au début, je pense qu'il était de même. Puis depuis plusieurs années maintenant, il est rendu beaucoup plus solide là, dans sa job. Il est même très bon. Ça fait que je pense qu'il n'y a plus besoin. Il est capable de dire non, puis telle affaire. L'autre, c'est les manipulateurs. Je crois que les manipulateurs, d'instinct, se fondent littéralement dans la personnalité de leurs interlocuteurs. Puis ça fait en sorte que quand on parle à quelqu'un qui est un manipulateur, d'une personne à l'autre, puis qu'on dit « Ah, il m'a dit ça, telle affaire », on est surpris, on fait comme « Ah, ben c'est bizarre, ça. » Parce que moi, il m'a dit l'exact contraire. Ben là, on fait affaire soit à quelqu'un qui a le complexe de Dieu, ou on fait affaire à un manipulateur. Puis les manipulateurs sont très fréquents, et je crois qu'ils causent beaucoup de problèmes dans leur entourage. Et il y a l'autre versant de la montagne, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit, ça peut paraître sévère, mais il n'y aurait pas de manipulateur s'il n'y avait pas de manipulable. C'est comme on dit, il y a des gens manipulables. Il y a des gens que tu leur pèses dans le mou, puis c'est pas long, là, tu sais. Puis il y a d'autres mondes qui sont pas manipulables. C'est-à-dire que tu essaies tes techniques pour les faire sentir coupables ou whatever, puis ça passe pas. Ça passe juste pas. Puis ça relève beaucoup du savoir-dire non, tu sais. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes dans notre société qui sont basés sur l'incapacité de savoir-dire non. Pour justement le complexe de Dieu, dans la plupart des cas, c'est-à-dire, mon Dieu, que je suis pas capable de vivre avec l'idée que je vais contrarier quelqu'un qui ne va pas m'aimer par la suite, qui va être lui-même contrarié, etc. Il y en a qui vivent mal avec ça, mais je vous dirais que c'est une impossibilité d'être heureux à ce moment-là. Tu peux pas être heureux si t'es pas capable de dire non. Il y a deux volets au bonheur. C'est être capable de renoncer à assouvir immédiatement un désir. Donc, quelqu'un qui dit, moi, là, quand je veux de quoi, je le veux tout de suite, sinon je vire fou. Bonheur impossible. Puis de l'autre côté, quelqu'un qui dit, si quelqu'un ne m'aime pas, si je contrarie quelqu'un puis je sens que cette personne-là ne m'aime pas, moi, je ne peux pas vivre avec ça. Très difficile d'être heureux aussi. C'est-à-dire vivre à travers le regard des autres. Extrêmement compliqué. C'est-à-dire que si vous vous reconnaissez dans ces affaires-là, de grâce, faites des démarches, parlez-vous, puis c'est pas obligé de passer par un psy, hein, à un moment donné, c'est juste de l'introspection. Quand on voit qu'on a un comportement qui, à quelque part, nous peinture dans le coin, je vous l'ai déjà dit, j'avais fait une semi-dépression parce que jusqu'à l'âge de 33 ans, moi, ma façon de régler mes conflits avec les gens, c'était de me pousser, c'était de fuir, ciao, bye. Puis habituellement, je pense que quand on fait ça de même jeune étant enfant, la vie nous envoie le signal que non, c'est pas le même, ça marche, parce que quand on fuit, on règle pas le problème. Mais moi, je l'ai réglé, le problème. Moi, j'ai toujours réglé mes problèmes de même. C'est-à-dire que quand ça marchait pas à droite, ça marchait à gauche. Parce que justement, je maîtrisais bien les codes de la communication, etc. J'étais un séducteur, j'étais un charmeur, tu sais. J'étais capable de passer d'un environnement à l'autre, puis ça marchait, puis ça coûtait pas trop cher, le prêt à payer était pas si grand. Puis à un moment donné, ça m'a rattrapé. Puis j'ai réalisé que dans la vie, il faut régler les problèmes, faut pas les fuir. Puis c'est pas beaucoup plus lourd quand on s'y met, tu sais. Ça fait que c'est ça. C'est carrément ça. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est ça que je voulais jaser de façon très précise, là, en tout cas le plus possible. C'est que il est très possible que moi, Gilbert Rozon, dans mon expérience à moi, j'ai honnêtement absolument rien de négatif à dire, mais il est très possible qu'il était très différent avec quelqu'un, avec les autres. Puis s'il y a une introspection à se faire lui-même, ce sera peut-être celle-là, tu sais, de se demander est-ce que son... Puis là, j'extrapole, là, je pars vraiment de l'exemple. Peut-être qu'il répondrait « Je suis désolé, j'ai toujours été le même avec tout le monde, mais toi, t'es un gars, puis je sais pas. Regarde, ce bout-là, je le sais pas. Je veux pas inférer de ce qui s'est passé. » Puis je vous rappelle, très important, le juge, c'est pas celui qui détermine la vérité. C'est celui qui est le gardien d'une procédure pour faire en sorte qu'on cherche la vérité. On la détient pas, on la cherche. Quand on cherche de quoi, on le trouve pas de façon garantie. On le trouve le mieux possible. Puis c'est comme ça que le système est fait. Puis moi, je suis très ouvert à plein de changements du système de justice. Peut-être plein de changements. Je crois pas que les filles qui ont rapporté des choses sur Gilbert Rozon avaient tout tort par définition. Il y a quelque chose là-dedans qui relève quasiment de l'impossible. Il y en a une, entre autres, que je connais très personnellement. Je vois vraiment pas pourquoi elle montrait. Je vois pas pourquoi. Donc oui, je les crois. C'est oui. Bien, pas les toutes, mais en tout cas, elle, il y a un degré de confiance supplémentaire. Mais est-ce que de croire ça fait en sorte que le système doit lui aussi procéder? La juge le dit, hein? Le « on vous croit », entre guillemets, là, ça n'a pas sa place en droit criminel. Elle a raison, je suis désolé, elle a raison. Ça fait qu'il faut que ça continue, cette discussion-là, parce que les dénonciations sont importantes, la prise de conscience de tous et chacun est importante, puis c'est ça. Faut que ça arrête d'être en dessous du tapis. Ça, c'est clair. Pour le reste, je finis avec un petit truc qui m'est arrivé récemment, c'est que je me suis trompé de numéro de téléphone, puis j'ai demandé à parler à Pierre. Puis la personne m'a dit « Pierre qui? » Puis là, ça sortit de ça, j'ai fait « Madame, y a-t-il un Pierre? Y a-t-il un Pierre à ce numéro-là ou dans votre entourage immédiat ou qui a accès à votre téléphone? » C'est que là, non. Mais pourquoi vous me demandez Pierre qui? Pourquoi on fait ça tout le temps? On fait tout ça. Si quelqu'un m'appelle en disant « Martin, s'il vous plaît, je vais demander Martin qui? » Pourquoi? Il n'y a pas de Martin ici. Je ne m'appelle pas Martin. Aucun Martin n'a accès à mon téléphone. C'est comme « Martin, tu t'es trompé de numéro, point barre. » Non, on est tous là. « Martin qui? » On est-tu, ma mère? Alors voilà, c'était ma petite anecdote pour terminer le tout. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.